Bonjour et bienvenue sur Radio Capucin 94.5 FM. Vous êtes en compagnie de
Faïza,
Léna,
Kaina
et moi-même Kevin.
Nous sommes élèves de 6ème 3 avec notre professeur de français. Nous avons préparé une émission de littérature.
Nous allons aujourd'hui vous parler des monstres et des héros dans les récits de l'Antiquité. Je vais commencer avec le livre de Nathaniel Hawthorne, La Toison d'Or, dans l'édition Medium Poche. Toison d'Or. Jason, fils du roi Aeschylus, chassé de son trône par un usurpateur, fut en bas âge placé sous la direction du maître le plus étrange dont vous ayez jamais entendu parler. Le savant question appartenait à une race d'hommes ou plutôt de quadrupèdes appelés centaures. Il avait une caverne. Il avait un corps et les jambes d'un cheval blanc, la tête et les épaules d'un homme. On le nommait Chiron. Et, malgré sa nature bizarre, il passait avec raison pour un excellent instituteur de la jeunesse. Maintenant, je vais vous laisser avec Kaina.
Plusieurs des disciplines plus tard célébrées dans le monde témoignent de sa science profonde et de ses mérites, pour ne citer que quelques noms. Araclé, Archile, Philoctète et Arséclope, qui cite un moment célébrité comme médecin, l'habile Chiron enseignant à jouer des harpes à guérir les maladies à manier un glaive ou un bouclier et développer l'intelligence de ses élèves dans la différentes branches d'études en faveur à cette époque, l'écriture et l'arithmétique que acceptaient. J'ai parfois soupçonné que Maître Christ naît. Maintenant, je vous laisse la parole à Kevin.
Je vais vous présenter un livre. Il s'appelle L'Odyssée. L'auteur est Homère. Invocation à la muse. Racontez-moi, muse, l'histoire d'Ulysse, l'homme aux mille tours qui erra si longtemps sur les mers après avoir pillé la ville de Troie, à qui endurer mille angoisses pour survivre à ramener ses compagnons. Aux déesses, filles des yeux, dis-nous quelques-unes de ces aventures. Je vous laisse la parole à Faïza.
Mon livre parle de l'Odyssée. L'auteur s'appelle Homère. La collection s'appelle Belin Gallimard. Invocation à la muse. Conte-moi, muse, l'homme aux mille tours qui erra longtemps sans répit après avoir pillé la citadelle sacrée de Troie. Il vit des milliers d'hommes, visita leur cité et connut leur esprit. Il endura mille souffrances sur la mer en luttant pour sa survie et le retour de ses compagnons. Mais il ne put en sauver un seul. Malgré tout son désir, il ne dure leur mort qu'à leur propre aveuglement. Ces fous qui mangèrent les vaches du soleil Hyperion, et le dieu les priva du jour de leur retour. À nous aussi, déesse, fille de Zeus, conte-nous son histoire, en commençant où tu les souhaites.
Maintenant, je laisse la parole à Kaina.
C'est la fin de notre émission. Nous espérons qu'elle vous a plu. Vous étiez en compagnie de
Kevin,
Faïza,
Léna
et moi-même Kaina. À très bientôt sur Radio Capucin 94.5 FM.
Au revoir, restez branchés.
Radio Capucin 94.5 FM. Vous êtes en compagnie de
Estelle,
Nurten
et Dounia.
Nous sommes les élèves de 6e 3. Avec notre professeur de français, nous avons préparé une émission de littérature.
Nous allons aujourd'hui vous parler des monstres et des héros dans les récits de l'Antiquité.
Le titre des livres s'appelle « Le premier roi du monde, l'épopée de Gilgamesh ».
L'auteur Jacques Cassabois, l'édition, le livre de poche jeunesse. Nurten va vous lire un résumé.
Cette histoire est très ancienne. Elle date de 3500 ans. Gilgamesh est préféré des dieux. Il dit que les dieux ne vous écouteront pas parce qu'il ressemble aux dieux. Son pied dans le ciel. Nisuna est la déesse du gros bétail et son fils est le buffle d'Uru.
Cette histoire est très ancienne. Parmi les anciennes connues à ce jour, 3500 ans environ, elle nous vient de Sumer, une province du sud de Mésopotamie, l'Irak d'aujourd'hui. Les Sumériens passent pour avoir inventé l'écriture. Ils étaient donc bien placés pour créer des histoires qui exprimaient leur espoir, leurs craintes, leurs questions sur l'organisation du monde. La place de l'homme, une fois gravée sur des tablettes d'argile, des récits ne s'oubliaient plus et pouvaient se transmettre aisément de mémoire en mémoire. C'est ainsi que la folle épopée de Gilgamesh, roi de la ville d'Uruk, est parvenue jusqu'à nous en rencontre la lutte éperdue qu'il engagea contre la mort quand il prit conscience qu'il devrait mourir lui aussi.
Pourtant, il connaissait la mort, puisqu'il était roi, chef d'armée, belliqueux, avide de conquête et de puissance. Chacune de ses victoires laissait derrière lui des jonchées de victimes. Mais sa mort ne l'avait jamais touché directement, donc il ne l'avait jamais bien vu. Le malheur est toujours pour les autres. Quand on consente à l'envisager pour nous, on imagine qu'on trouvera bien une solution pour se tirer d'affaire. Cette illusion a traversé les millénaires. Mais Gilgamesh, un jour, fut bien obligé d'ouvrir les yeux grâce à son seul ami, Enkidu. Enkidu était un sauvage dont Gilgamesh, l'invincible, avait eu peur. Pour le vaincre, il avait conçu un plan diabolique, le civiliser.
Cependant, Gilgamesh n'avait pas prévu qu'une amitié allait naître entre eux, les lier, les transformer et les rendre indispensables l'un à l'autre. Cette amitié leur donna les ailes et le monde trop petit pour eux se mit à vibrer à leur explosion, jusqu'au jour où les dieux, fâchés de leur arrogance, décidèrent de leur porter un coup d'arrêt en leur rappelant qu'ils n'étaient que des hommes. La leçon fut terrible. Ils firent mourir Enkidu et subirent Gilgamesh la mort de son délicieux ami. Alors Gilgamesh sera le corps d'Enkidu contre lui, hurla contre les dieux et jure les affronter pour leur arracher l'immortalité. C'est la fin de notre émission.
Nous espérons qu'elle vous a plu.
Vous étiez en compagnie de
Nurten,
Dounia,
Estelle.
À très bientôt sur Radio Capucin 94.fm.
Au revoir, restez branchés.
et bienvenue sur Radio Capucin 94.5 FM. Vous êtes en compagnie de
Alexia,
Léon,
Zara
et moi-même Clara.
Nous sommes élèves de 6e 3 avec notre professeur de français. Nous avons préparé une émission de littérature.
Nous avons aujourd'hui vous parler des monstres et de héros dans les récits de l'Antiquité.
Les 12 travaux d'Hercule, Christian Renier, Nathan.
Les 12 travaux d'Hercule, Gabriel Aimé, jeunesse.
Hercule travaille pour des pommes ou les pommes d'or du jardin des Hespérides. Hercule n'avait plus que 2 travaux à accomplir. Eurysthée, qui ne dépérait pas de se débarrasser de son cousin, crut enfin trouver le moyen de lui confier une mission irréalisable. Je veux lui déclarer, dit un jour, que tu voles et me rapporter les pommes d'or du jardin des Hespérides. Hercule protesta. Tu sais bien que c'est impossible. Nul connaît l'emplacement de ce jardin. Et puis ses fruits sont sacrés. Ils furent offrir par la déesse Gaïde à Juno quand elle épousa Jupiter. Quel méchant prétexte, Hercule. Oublies-tu que tu dois m'obéir et exaucer mes vœux? Pars! Le plus tôt sera le mieux. Dominant sa fureur, Hercule s'éloigna de Tyrite, sans avoir où porter ses bas. Le jardin est péril. À n'en croire la rumeur, c'était un lieu extraordinaire, enchanté, où coulant des fontaines au pouvoir fabuleux, où poussaient les herbes les plus rares. Découvrir ce paradis. Le soir tombé, regarde Hercule s'arrêta sur les autres qui scintillaient dans le couchant.
Alors, avant propos, Zeus, le patron incontesté, les tous dieux de l'Olympe, avait entre autres défauts celui d'être volage. Grand coureur de jupons devant l'Éternel, c'est-à-dire devant lui-même. Il usait et abusait de toutes sortes de subterfuges pour séduire Thaïs ou mortelle. C'est ainsi que s'est emprise une passion soudaine pour une jeune et vertueuse beauté du nom Talismène. Il adopta l'apparence et la voix de l'époux de celle-ci, Amphitryon, pour partager sa couche le temps d'une nuit. 9 mois plus tard, Alcmène mettait au monde Héraclès, autrement dit Hercule. Au grand Tamtéra, la très jalouse et vindicative épouse de Zeus, qui, au courant de la liaison pourtant éphémère de son divin, mariée avec l'humaine Alcmène, prit immédiatement en crible le nouveau-né, d'autant que le dieu Hermé, qui n'était pas à une facilité près, enleva quelques instants le bébé à sa mère pour lui faire téter le Saint-Héra, endormi et le rendre ainsi immortel. Inutile de décrire la fureur d'Héra à son réveil. De quoi étaient pourtant coupables Hercule et sa mère? La haine ne fait jamais bon ménage avec la raison et la justice,
s'il les tue comme chez les hommes.
C'est la fin de notre émission. Nous espérons qu'elle vous a plu. Vous étiez en compagnie de
Clara,
Alexia,
Léon
et moi-même Zara.
À très bientôt
sur Radio Capucin 94,5 FM.
Au revoir, restez branchés.
Radio Capucin 94.5 FM. Vous êtes en compagnie de
Angie,
Jordan
et Messianas.
Et moi-même, Grace.
Nous sommes des élèves de 6e 3 avec notre professeur de français. Nous avons préparé une émission de littérature.
Nous allons aujourd'hui vous parler des monstres et des héros dans le récit de l'Antiquité.
Contes et légendes, les métamorphoses d'Ovide. Écrit par Laurence Gillot. Expédition Nathan. Éditeur Nathan. Un rayon de soleil taquine les paupières de Deucalion et le réveille. Il s'étire et sourit. Puis d'un coup, tout lui revient à l'esprit. Le déluge, la terre noyée, le mont Parnasse devenu un simple récit sur lequel son épouse et lui-même se réfugient. Il se redresse pour voir. Le niveau de l'océan a beaucoup baissé. Pyrrha ! Appelle-t-il aussitôt. Pyrrha ! Regarde ! On aperçoit plusieurs sommets de montagne. Les eaux sont en train de se retirer. À son tour, Pyrrha s'éveille et découvre ses îles apparues autour d'eux. Les yeux tournés vers le ciel, elle murmure. « Jupiter, merci !»« Descendons !» s'écrie Deucalion. Il passe aux côtés de leur barque qui pend maintenant de façon cocasse, attachée au sommet du mont Parnasse, et rejoignent le niveau de l'eau quelques mètres plus bas. Pendant plusieurs jours, ils suivent ainsi la décrue des flots. Progressivement, les eaux relèvent les rondeurs des collines, puis le faîte des forêts, enfin les plaines et les villages. Tout est tapissé de boue, d'algues et de limon. Tout est humide, glissant. Deucalion et Pyrrha marchent prudemment, main dans la main.
Pyrrha prie de tout son cœur Jupiter et d'autres divinités. Deucalion lui s'interroge à voix haute. Comment faire revivre la race humaine ? Comment repeupler la terre ? Allons demander conseil à Thémis, dit Pyrrha. Son sanctuaire est là tout près, mais en quoi la déesse de la justice peut-elle nous aider ? L'ignores-tu ? Deucalion, Thémis peut prédire le destin. Ses prophéties nous indiqueront le chemin que nous devrons suivre. Il pénètre dans le temple dévasté par les eaux. Il fait froid et humide. Une odeur de moisie règne entre les murs couverts de mousse. Mais la statue de Thémis est toujours là, debout sur son autel. Deucalion et Pyrrha se prosternent, ils baissant en tremblant la pierre glacée. Ils rendent grâce ensemble et implorent Thémis parle-nous. Nous sommes seuls sur la terre. Dis-nous
redonner vie à l'humanité.
Ils fixent le visage de la Dis. Ils le regardent, ton. Que leur vue se brouille, ils voyons maintenant un vrai visage de choisir. Un visage dont tous les lèvres se sont mises à bouger. Témis leur part. Éloignez-vous du temple. Voilez-vous la tête. Détachez la ceinture de vos vêtements. Et jetez derrière vous les os de votre grand-mère. Tu as entendu s'exclamer des quoi? Des Hucalions Pyriens. Acquiesce d'un signe de tête. Oui, elle a entendu, mais elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Comment un dieu peut exiger d'un acte aussi impie?
C'est la fin de notre émission. Nous espérons qu'elle vous a plu. Vous étiez en compagnie de
Dras,
Mishanas,
Anas,
et moi-même, Andy. À très bientôt sur Radio Capucin 94.5 FM. Au revoir à tous et restez branchés.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.